Ton poste, c'est de travailler aux idées.
Aux idées?
Oui, tu devras trouver des idées pour le maire. Alors, en dehors des discours, éditos, communiqués de presse, ça, c'est nous. En fait, ton boulot, c'est prendre du recul.
Mais c'est pas un travail.
Quoi?
Prendre du recul. Enfin, prendre du recul, c'est pas un travail. Moi, je sais même pas par rapport à quoi je dois prendre du recul.
Bah, par rapport à l'action municipale quotidienne. Tu devras faire de la prospective sur le terrain des idées.
Ah, ils vont se multiplier!
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en place de mission.
Ne fais pas trop de bruit. T'as pas le d'or.
Une are to vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Una are to vous. Now, go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Pourquoi ceux qui agissent ne pensent pas et pourquoi ceux qui pensent n'agissent pas? C'est la question qui traverse ce film sur le monde politique et ils sont si rares en France. Un regard passionné sur l'importance des idées. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Salut et fraternité, Christine, bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
Un homme politique en panne d'idées, c'est le maire de Lyon et face à lui une jeune femme qui va lui réapprendre les vertus de la pensée. Bonjour Nicolas Parisère.
Bonjour.
C'est le pitch de votre film Alice et le maire, une talentueuse joute verbale entre deux grands acteurs, Fabrice Lucchini et Anaïs de Moustier. Et comme ce film se situe à Lyon, que ce maire est un élu socialiste, nous avons bien sûr pensé à elle pour le regarder et le commenter. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem.
Bonjour.
C'est à Lyon que vous avez fait vos premières armes politiques, chargée de mission de l'équipe de Gérard Collomb, puis conseillère générale et régionale, notamment à la culture. Voilà pour Lyon. En ce qui concerne le PS et la politique, on connaît la suite jusqu'à votre dernier poste, celui de ministre de l'éducation et désormais ailleurs. Bref, vous connaissez la musique. Alice et le maire sera sur les écrans dès mercredi prochain. Les sorties ciné de la semaine, l'aristocratie anglaise, des cendres, des braises, le monde paysan, mais surtout un grand film politique brésilien, Bacurau. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. La première rencontre entre le maire de Lyon, Paul Terranos et Fabrice Lucchini, et cette jeune normalienne, Alice Eman, Anaïs de Moustier.
Donc vous êtes la philosophe?
Je sais pas, enfin non, je suis pas du tout philosophe.
Ah d'accord, vous n'êtes pas philosophe?
Je suis pas philosophe, mais j'ai déjà donné des cours de philosophie à l'étranger notamment. Enfin, j'ai fait des très longues études de lettres et j'ai aussi étudié des textes philosophiques.
Non, vous y connaissez un peu alors?
Oui, c'est ça, un petit peu.
Je vais essayer de vous exposer ma situation. Je vais essayer de le faire en peu de mots, d'accord? J'arrive plus à penser. Plus du tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Non, pas vraiment.
Vous connaissez mon parcours?
Je sais que vous êtes un homme politique, vous êtes socialiste, vous êtes le maire de Lyon.
Oui, voyez, moi, j'ai toujours eu des idées. Au début, c'était même mon métier. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Je travaillais dans la publicité. Et puis, assez jeune, j'ai fait de la politique. J'ai organisé des campagnes électorales, j'ai travaillé dans des ministères. J'ai conseillé énormément de monde. Les idées venaient toutes seules, dès le réveil. Hein. J'utilisais même un petit dictaphone pour ne rien oublier. Puis après, je me suis présenté à des élections, j'ai mené des équipes, j'ai conduit des projets très importants jusqu'à leur terme. Je peux dire qu'en toute modestie, j'ai profondément changé ma ville. Et puis, je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. Enfin, ça s'est pas passé comme ça, hein, exactement, mais enfin, vous voyez à peu près ce que je veux dire.
Mais qu'est-ce que vous entendez par idée, exactement?
Mais vous savez ce que c'est qu'une idée, non?
Pas vraiment. Les philosophes en ont donné plusieurs définitions.
Ah oui, la philosophie.
Oui, la philosophie. Un homme politique qui n'arrive plus à penser, c'est Fabrice Lucchini, Nicolas Parisère, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs aussi sobre et mesuré dans un film, vraiment. Et ce projet d'Alice et le maire est d'ailleurs... Commencez avec lui, vous vouliez tourner avec Lucchini.
Oui, je voulais tourner avec Fabrice Lucchini. Et je trouvais que c'était un beau point de départ de ne pas partir de l'envie d'une histoire ou d'un milieu ou d'un livre, mais de partir de l'envie de travailler avec un grand comédien, avec un grand acteur.
Et la politique est arrivée après?
Alors la politique est arrivée après. Après, si je suis honnête, c'est mon cinquième film si je parle des courts-métrages, et c'est mon quatrième film sur le milieu de la politique. Et encore, il y en a un qui parle d'une rédaction et de rapports de pouvoir entre les différentes rubriques d'une rédaction. Donc,
ça vient d'où, ça, cette obsession de la politique?
Ben, je pense que c'est un peu comme tout. Enfin, c'est l'enfance. J'adorais les élections de délégués.
J'adorais. Vous avez été élu?
J'ai été élu sans interruption jusqu'en première.
Long mandat.
Et en première, je pense que c'est la plus grande déception de ma vie. J'ai été battu.
Qu'est-ce que vous aimez dans la politique?
Qu'est-ce que j'aime dans la politique? Ben, d'abord, je trouve que c'est un réservoir de fiction, de personnages, d'affects. Inépuisable. Et d'ailleurs, quand on prend les grands récits, les grandes œuvres d'art, que ce soit, je sais pas, Shakespeare, la Bible, ça parle de rapports de pouvoir, d'accession au pouvoir, de qu'est-ce qu'on en fait, du bon gouvernement, du mauvais gouvernement, des ambitions. Je trouve que l'ambition politique qui est extrêmement, disons, décriée aujourd'hui, c'est un affect humain passionnant. Voilà.
Vous avez choisi la mairie de Lyon, il se trouve que Najat Vallaud-Belkacem y a travaillé, vous avez fait vos débuts là-bas, vous avez vu le film, ça vous semble tout à fait réel, toute cette description de ce personnel politique en agitation qui passe son temps à parler, à travailler, à marcher, à courir. Hein.
Oui, moi j'avoue que ce film a été comme un choc pour moi, vraiment, parce que d'abord je l'ai trouvé absolument magnifique et s'agissant du politique, j'ai trouvé que c'était un regard très juste qui était porté. C'est notamment quand on est un responsable politique ou qu'on a donné à la politique beaucoup d'années, beaucoup d'énergie, beaucoup de convictions, c'est toujours douloureux de voir des choses un peu caricaturales ou simplistes sortir sur ce qu'est la politique. Et donc ça fait toujours plaisir d'avoir affaire à de grands films. Ça a été le cas par exemple avec L'exercice de l'État. C'est ce que j'avais ressenti déjà à l'époque. Ouais. C'est le cas avec celui-ci. Pour moi, c'est un petit peu le même type d'exercice. C'est-à-dire un exercice de complexité dans lequel sont posées de véritables questions dans lesquelles je me retrouve totalement. Et moi, je suis émue quand je vois Fabrice Luchini expliquer, mais je n'ai pas d'idée. Et Alice, en face de lui dire, mais qu'est-ce que vous entendez par idée? Cette espèce de dialogue de sourd au début. Et puis ensuite, dans le film, tout ça va se rencontrer, mais je trouve que en fait ça renvoie à une nécessité en politique qui n'est pas simplement d'avoir des projets concrets comme il le dit pour sa ville, d'être pragmatique, c'est le nouveau mot à la mode, mais aussi d'avoir un projet de société, quelque chose qui soit exaltant, qui vous dépasse. Et parfois les observateurs sous-estiment cette nécessité-là et sous-estiment à quel point il faut se nourrir aussi de son entourage, se nourrir des intérêts intellectuels, des chercheurs, de cette jeune normalienne en l'occurrence, pour pouvoir penser plus haut, plus loin.
Mais à la différence d'Alice, Alice n'a pas d'ambition politique. Vous, à l'époque, quand vous entrez dans la mairie de Lyon, vous avez déjà une ambition politique.
Alors, si on revient en effet à cette expérience lyonnaise qui a été la mienne, c'est vrai que l'une des choses qui m'a...
Il y a cette comparaison avec le personnage principal du
film. L'une des choses qui m'a touchée en voyant ce film, c'est que je me suis vraiment reconnue dans les premiers pas d'Alice, ouvrant la porte de l'hôtel de ville, traversant cette enfilade de salons, atterrissant dans un petit bureau. Et même les dialogues d'ailleurs entre membres du cabinet, c'est vrai, ça ressemble absolument à ça, une vie de cabinet d'élu local. Où on a à la fois l'impression de faire des choses très importantes et en même temps on dépense sans doute beaucoup d'énergie finalement à accompagner le pouvoir et pas forcément à obtenir toujours les résultats espérés. Donc oui, je m'y suis beaucoup retrouvée et ça m'a fait renouer avec mes années de jeunesse, c'est vrai.
Mais... pourquoi vous avez choisi Lyon d'ailleurs, Nicolas Parizère?
Je voulais pas tourner à Paris parce que je voulais que ce soit vraiment une baronnie, c'est-à-dire que ce soit un seigneur de sa province. Enfin, donc voilà, donc Paris ne marchait pas parce qu'à Paris il y a un roi qui est le président de la République, et donc je voulais un duché ou une baronnie. Alors assez grande. Donc je voulais la deuxième ville de France, c'était bien. À un moment donné, je me suis posé la question rapidement de Marseille, mais je me suis imaginé Fabrice Luchini avec l'accent de Rémy.
L'avoir évité.
Voilà, et je me suis dit ça marchera pas. Donc Lyon me paraissait parfait.
Alice et le maire, un film sur la parole politique, la parole et les actes, et ce à quoi sera confrontée Alice face au maire. Extrait.
Je vais être brusque.
Allez-y.
Vous n'avez pas l'impression d'être devant un mur infranchissable depuis 30 ans? Vous n'avez pas l'impression de ne plus pouvoir régler un seul problème? Moi, je pense que c'est ce dont les citoyens ont l'impression. L'impression d'une impuissance infinie.
Cette impuissance infinie, comme vous dites, c'est une invention journalistique. Bon, je ne vais pas vous faire le bilan de mon action ici à Lyon, mais je pourrais vous faire visiter des centaines de logements sociaux. Oui, des prisons, des hôpitaux. Je pourrais vous présenter un certain nombre de gens que nous avons aidés. Des réfugiés, des chômeurs, des femmes seules dans la détresse. Et je peux vous dire que de là où je suis, je ne me sens pas du tout impuissant.
Donc Manon ne vous a pas du tout intéressé?
Si. Qu'est-ce que vous faisiez avant?
Des études, principalement. Et puis ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé.
Et après? Vous voudriez faire quoi après? Vous avez bien quand même, je sais pas moi, vous n'allez pas rédiger des notes toute votre vie?
Non, mais en même temps, j'ai commencé il y a 3 semaines, j'ai un petit peu le temps d'y penser.
Oui, mais après? Qu'est-ce que vous aimeriez faire après?
Je sais pas.
Vous avez bien une idée? Quelque chose qui vous intéresse, non?
Non.
Vous êtes mariée?
Non.
Un copain?
Non. Et vous?
Moi, j'ai été marié, mais ça n'a pas marché. Vous savez, quand on fait de la politique à mon niveau, on a intérêt à avoir un partenaire et un conjoint vraiment compréhensif. C'est un cliché, mais je vais vous le dire quand même. J'ai tout sacrifié à ma vocation. Je dis bien ma vocation, hein, je parle pas de mon métier ni de mes convictions. La politique, c'est comme la musique ou la peinture. C'est toute la vie, tout le temps, ou rien.
Quel beau dialogue que vous avez écrit, Nicolas Pariser, ainsi que le scénario. Donc le maire qui ne pense pas mais qui a une vocation, et elle qui pense et qui n'en a pas.
Bah oui, enfin après le film est une comédie, donc je voulais qu'il y ait une opposition. Enfin c'est comme dans Laurel et Hardy, un gros, un maigre. Bah là il y a quelqu'un qui a une ambition très forte et qui n'arrive plus à penser. Et puis quelqu'un qui pense beaucoup. Et alors on se dit bah comme elle pense beaucoup, comme elle est très cultivée, elle a un sens à sa vie. Et en fait non, c'est-à-dire que je pense que il y a une déconnexion entre savoir ce qu'on a à faire dans la vie et puis la réflexion. Tout à fait avoir un cerveau en très bon ordre de marche, être très cultivé et ne pas du tout savoir quoi faire dans la vie. Et du coup le film raconte effectivement la rencontre de ces deux moitiés de vocation, je
dirais. Et de solitude aussi.
Alors, c'est aussi la rencontre de deux solitudes, ça c'est vrai.
Elle n'a pas d'ambition politique, c'est en ça que c'est intéressant, parce que elle, c'est un peu nous qui regardons le milieu aussi.
Oui, alors elle n'a pas d'ambition politique, et quand j'ai écrit le personnage, j'avais vraiment une exigence, c'était que surtout, elle découvre la vie de la mairie sans surplomb. C'est-à-dire que, voilà. Elle observe, elle regarde, mais à aucun moment elle ne porte un jugement sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle observe. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez difficile. C'est-à-dire que l'intellectuel moyen, c'est-à-dire quand même beaucoup de monde, va immédiatement avoir un surplomb sur l'homme politique, qui va trouver idiot, déconnecté, corrompu, etc. Et je voulais me garder de ça. Je veux dire, à un moment donné, elle ne va avoir aucun surplomb sur ce qu'elle voit, et elle va essayer de faire ce qu'il y a à faire, de faire ce pourquoi elle a été engagée. Et moi, dans mon regard de réalisateur, je voulais pareil. Je voulais, voilà, pas de surplomb. Je vois ce qui se passe et on sauve ce qui a sauvé, et puis ce qui me semble ne pas fonctionner ou être critiquable, évidemment, je le montre aussi.
Najat Vallaud-Belkacem, ce qui est bien dans le film aussi, c'est qu'il n'y a pas de mépris pour la classe politique. Il y a une description plutôt saine, quoi. On ne l'enjolive pas et on ne la critique pas à boulet rouge.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, de ce point de vue, il y a une scène qui est assez intéressante sur laquelle je voudrais qu'on revienne. C'est quand cette jeune femme, donc, qui est persuadée que la fin du monde approche,
Delphine.
Delphine, ouais. Voilà.
Quand, cette artiste.
Oui, absolument. Et donc, qui cherche absolument à rencontrer le maire de Lyon pour lui expliquer qu'il va dans le mur. Alice, en effet, même sur un sujet comme celui-là, dont il est beaucoup question dans l'actualité aujourd'hui, le réchauffement climatique, l'anthropocène, ne prend pas véritablement position. Elle se veut neutre, elle est relativement froide à l'égard de tout cela. Et c'est vrai que du coup, on se dit, ben, ce que permet ce film avec un personnage comme celui d'Alice, c'est que s'ouvre en fait une meilleure compréhension, même si ça commence par un dialogue de sourds comme on l'a à nouveau entendu tout à l'heure, que s'ouvre une meilleure compréhension par la confrontation d'arguments qui sont entendables de part et d'autre. quand le maire lui dit mais si, j'ai fait plein de choses, j'ai construit des hôpitaux, des prisons, etc. Mmh. C'est vrai, on va pas le lui dénier. Mais en même temps, sa réponse, oui, mais vous êtes devant un mur infranchissable. C'est un peu quand même ce que les citoyens ont l'air de penser. Donc je pense que vraiment ce film apporte là encore un éclairage qui est fort bienvenu sur la difficulté de l'exercice du pouvoir et d'avoir un projet collectif dans lequel tout le monde se retrouve.
Oui, mais le maire peut aussi se planter et faire des déclarations comme celle-là. L'écologie n'est pas tout, elle ne peut ouais. être un frein systématique à tout progrès humain, social, politique. Ce qui entraîne une réunion de crise et ce qui va nous faire parler bien sûr du langage politique. Mais j'aime beaucoup cet extrait donc de Brainstorming Express, de Tempête sous les crânes, après cette déclaration.
L'écologie est une composante essentielle de la gauche.
Ouais, la gauche c'est une ratatouille, faut pas trop d'aubergine. Non, bon, allez, c'est la merde là.
Mais on doit absolument trouver une formule.
T'as le temps d'écrire un bouquin pour dans 8 minutes? Et ensuite, il faut le résumer en 140 caractères.
Bon, en fait, ce qu'il faut qu'on essaye de faire, faut qu'on essaye d'intégrer la composante écologiste de la majorité municipale dans la critique du maire, et après, on réduit un peu la critique. Un truc du genre, les écolos de la majorité municipale savent très bien que l'écologie n'est pas tout. Etc. Après, on brode là-dessus.
Quoi. Mais simplement dire que démocratie et écologie ne sont pas incompatibles, mais que nous ne transigerons pas sur la démocratie au nom de l'écologie.
Je comprends rien. Autre chose?
Comment ça, tu comprends rien?
C'est pas clair, c'est trop compliqué, c'est mal dit.
Mais on peut peut-être reformuler après avoir un peu réfléchi, non?
On n'a pas le temps de réfléchir. Autre chose?
L'écologie est une nécessité vitale, mais elle n'est pas au-dessus des débats et des...
Tu veux vraiment qu'on ait un maire de droite dès cet après-midi?
Alors, on en est où?
On aura quelque chose dans 10 minutes, 15 minutes max.
Alice, t'as trouvé quelque chose?
Oui, en gros, le maire pourrait dire que l'exigence écologique est une nécessité vitale, mais que pour autant, aucune politique publique, y compris celle visant à la préservation de l'environnement, n'est au-dessus du débat démocratique.
C'est très bien. On bosse là-dessus, je reviens dans 10 minutes. Alice, j'ai encore besoin de toi.
640 caractères, c'est pas ça qui a tué la pensée politique? Question à tous les deux.
Moi, j'ai pas l'impression que, enfin, je suis pas décliniste. J'ai pas l'impression que le débat politique était plus riche en 84 ou en 72.
Najat Vallaud-Belkacem fait comme ça avec sa tête.
Un peu. Je suis dubitative. Je pense qu'il était plus riche.
Peut-être.
Ouais.
Vous avez assisté à des réunions pareilles, j'imagine.
Non, mais c'est-à-dire que, moi, à nouveau, pardon, parce que je souris en entendant à nouveau ce dialogue, mais en même temps, à nouveau, on est dans une forme de bienveillance dans ce film qui fait que on sort pas de ce dialogue en se disant, mais Alice a évidemment raison contre les communicants. En tout cas, moi, c'est ma perception des choses. C'est-à-dire, ce que je me dis, c'est à nouveau deux cultures qui se confrontent. Et honnêtement, chacune d'entre elles a raison, en fait. Parce que le communicant a raison de dire, dans le monde dans lequel nous sommes, il me faut un tweet pour tuer la polémique dans l'œuf immédiatement. Et c'est clair qu'il faut faire avec le monde et les règles du jeu telles qu'elles sont.
C'est-à-dire qu'en fait, globalement, j'ai pas du tout fait un film à thèse. C'est-à-dire, je voulais filmer des tensions, en fait. C'est-à-dire que, on a, dans la vie, très souvent, il y a deux personnes peuvent avoir raison, alternativement. Et je voulais pas filmer, l'un qui écrase l'autre ou l'un qui convainc l'autre. Je voulais filmer ce moment où, effectivement, il y a une contradiction qu'on ne peut pas surmonter. Donc, à un moment donné, faut filmer la contradiction.
Vous avez une vision très Capra, de la politique. Un peu comme dans la série dont vous êtes inspiré qui s'appelle À la Maison Blanche. On croit à la démocratie.
Je voulais surtout éviter de faire un film cynique.
Oui.
Je voulais éviter le côté la pseudo-lucidité parce que je pense qu'à un moment donné, s'il n'y a pas un minimum de croyance dans la démocratie, l'alternative en réalité c'est la violence. Donc je pense que je sais pas si c'est de l'idéalisme, mais je voulais montrer là que la démocratie n'est pas à jeter, que c'est quelque chose de précieux, oui.
Pourquoi est-ce qu'on fait si peu de films politiques en France?
Je pense que c'est parce que ça intéresse peu les réalisateurs, c'est tout. Parce que moi, je l'ai vécu pendant le financement de mon film. Le sujet est un sujet politique. À partir du moment où Fabrice Lucchini a accepté, le film s'est financé facilement, j'en sais rien, mais enfin disons bien et naturellement. C'est que les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes, c'est un sujet qui les intéresse peu, je pense.
C'est un défi, hein, de filmer des gens qui parlent. qui marche et qui travaille. C'est vous qui disiez que dans les films français, c'est vrai, on voyait peu les gens travailler. On les voyait entrer à leur travail ou sortir de leur travail.
Le cinéma français est très puritain, c'est-à-dire que c'est un peu comme les scènes de sexe dans les années 50. Ils arrivent au travail, ça coupe, ou bien ils sortent du travail. Mais moi, je voulais que mon film commence. Voilà, c'est cette jeune femme qui arrive au boulot et on lui dit voilà ton bureau. Et le film commence, et sur 1h40 de film, elle est au travail pendant 1h20, je pense. Après, je fais ça aussi parce que moi, je suis quelqu'un d'assez paresseux. Et donc, c'est une manière pour moi de travailler, quoi.
Non, juste pour rebondir sur votre question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de films politiques en France? Moi, je pense que le traitement journalistique du politique, de la politique, qui est quand même beaucoup fait du récit des arrière-cuisines de la politique, ce qu'on peut vraiment déplorer, hein, c'est en ça que je dis que la qualité du débat, à mon sens, s'est dégradée depuis quelques décennies, parce qu'on a l'impression que finalement tout n'est fait que de cynisme, que de coups de trahison des uns envers les autres et de petites phrases anonymement relayées. Donc ce traitement journalistique-là peut donner l'impression, je pense, aux observateurs, aux citoyens, à ceux qui financent des films et tout ça, que tout a déjà été dit.
Le récit
est épuisé sur les arrière-cuisines de la politique et que du coup, ça, c'est pas la peine d'en faire un film. Et il peut y avoir en effet une espèce de ras-le-bol d'entendre parler de tout ça. Et je pense que par exemple, quand le film La Conquête est sorti, c'est un petit peu ça. On avait l'impression qu'on savait déjà tout ce qui était raconté. Ouais. C'était redondant avec ce qu'on avait déjà lu dans Le Canard Enchaîné, etc. Ouais. Mais d'où la nécessité, à contrario, de faire des films comme celui dont on parle aujourd'hui, qui n'est absolument pas redondant avec ce type de traitement journalistique-là. Donc, prendre le récit du politique autrement en parlant de sa complexité.
C'est dur de prendre la parole après une femme politique.
Non, oui, mais c'est intéressant. Donc y a pas... non, je voulais juste rajouter une petite chose. C'est qu'à un moment donné, on me disait, oui, mais alors, le film n'est pas satirique, etc. Et je dis, un comédien, un scénariste, on pourra pas faire mieux que les guignols de l'info dans ce genre-là.
Voilà.
Donc les guignols de l'info, quand ça existait, ça a tellement écrasé le genre qu'il n'y avait pas de place pour faire autre chose. On ne pourra pas trouver un acteur qui sera du niveau de la marionnette de Chirac. C'est impossible. Donc effectivement, il faut trouver autre chose à raconter, un autre angle, voilà.
Le maire est socialiste. Ça veut dire quoi, être socialiste ou de gauche? C'est ce que Lys lui rappelle donc à ce maire entre l'ascenseur et la salle de réunion.
En fait, pour Orwell, être de gauche, pour un intellectuel, c'est essentiellement de ne pas perdre le contact avec le peuple, avec les gens simples.
Mais ça, c'est une évidence, c'est une exigence que je partage avec lui.
En gros, l'ennemi pour Orwell, c'est l'intellectuel de gauche qui a des idées qui font passer aux yeux des gens ordinaires pour un rigolo. Il pense que pour pouvoir faire vivre l'idéal socialiste, il y a un certain nombre de valeurs, ou plutôt de rapports traditionnels concrets au monde, avec lesquels la gauche ne veut pas rompre, au risque de se couper du peuple et donc de la vie. Si la gauche se coupe concrètement de tout ça, en fait, elle n'est plus qu'une stratégie cynique de prise de pouvoir politique, universitaire.
Mais c'est un peu vaseux tout ça, non? Et le progrès, qu'est-ce qu'il en dit, Orwell?
Comment ça?
Comment ça? Bah, le progrès.
Mais le progrès, ça n'a de sens que si on met en rapport avec un récit qui va d'un point A à un point B. Le progrès, c'est de s'approcher du point B. Vous avez un récit précis, vous? Les socialistes, aujourd'hui, ils ont un récit précis? Dans le récit des riches, payer moins d'impôts, ça peut être un progrès.
Monsieur le maire, excusez-moi, on nous attend.
Non, on ne nous attend pas, on m'attend moi. Il faudra qu'on en parle, hein. D'accord?
D'accord.
Réaction de Najat Vallaud-Belkacem sur le un film. Non, c'est vrai que c'est un film qui donne à penser aussi sur l'état de la gauche. Alice Le Maire.
Oui, et sur les projets politiques dans leur ensemble. Moi, j'adore cette phrase. Le progrès, c'est un récit qui va d'un point A à un point B. Ça a l'air simple, mais oui, c'est bien de le rappeler, en fait. Et en fait, là encore, ce qui est fascinant avec les réponses de Lucchini, c'est que on peut pas lui donner tort dans l'absolu. Honnêtement, lui, il se sent pas coupé du peuple. Et c'est vrai que c'est une critique et un reproche qu'on fait régulièrement. Et moi, la première, puisqu'on va reparler de mon expérience d'élu local cette fois-ci, je peux vous dire que quand vous êtes un élu local, mais alors vraiment, vous êtes tout sauf coupé des gens. C'est au contraire, vous êtes à leur contact toutes les heures, toutes les minutes de la journée. Donc cette critique-là est assez injuste et en même temps, ce que cherche à lui dire Alice, c'est de quoi est-ce que vous parlez à ce peuple ? C'est-à-dire en gros, est-ce que le vocabulaire que vous employez, y compris la notion de progrès, est-ce que c'est quelque chose qui résonne dans l'imaginaire de ces gens ? Et moi, pour revenir sur mon expérience personnelle, c'est amusant parce que depuis que j'ai décidé de mettre entre parenthèses ma vie politique et que je m'en suis un peu éloignée et qu'en plus je travaille dans un domaine qui est celui des études où on cherche à mieux comprendre ce que les gens perçoivent et comprennent, Eh bien, je saisis mieux que la moitié du vocabulaire qu'emploient les politiques, en fait, est totalement inaudible. Totalement inaudible. Même des choses simples, même parler de progrès, ben en fait, ça peut avoir plein de sens, le progrès. Donc, c'est pas si évident que ça que les gens entendent la même chose que vous. Et j'imagine que quand on utilise des mots comme on va créer des synergies, on va, etc., c'est des choses que la plupart des gens ne comprennent pas. Donc, là encore, c'est une belle réflexion portée sur la façon dont on peut se comprendre.
Il y a une scène redoutable, c'est celle où on donne prétendument la parole à des Lyonnais pour leur demander ce qu'ils pensent de leur ville. Et il y a un décalage abyssal entre, effectivement, ce qui se dit et ce qui se fait.
Oui, j'avais envie de filmer une scène de marketing qualitatif.
Ce que vous faites, Najat
Vallaud-Belkacem, oui, maintenant
tous les jours.
C'est pour ça que ce film, décidément, voilà. Ah,
ça résonne, hein, ça résonne, oui.
Oui, et je voulais montrer alors le côté effectivement un petit peu ridicule, parce que à nouveau, le film est une comédie, donc j'avais envie de montrer des choses drôles, mais en même temps, je comprends pourquoi ils le font. Enfin, à un moment donné, le sondage, disons, où on demande à 1000 personnes, ça a son utilité, mais à un moment donné, on essaye aussi de passer une soirée avec des gens, de les faire parler. Et même là, je pense que oui, il y a une sorte d'incompréhension, même quand on fait le geste d'écouter les gens sur un temps plus long. Ouais.
Pour faire suite à ce que dit Najat Vallaud-Belkacem, moi je vous ai lu, hein, vous dites à un moment, les hommes politiques font comme s'ils avaient toujours des marges de manœuvre qu'ils n'ont plus. Et les citoyens font comme s'il suffisait de prendre quelques mesures pour revenir à un état antérieur.
Et un état antérieur dont ils n'étaient pas contents.
C'est ça.
Oui.
Donc c'est ça votre réflexion de fond aussi.
Bah oui, c'est que en réalité, la vérité, c'est que je veux montrer que la démocratie, c'est quelque chose qui fondamentalement est décevant. Mais que l'alternative à cette déception, c'est la violence. C'est-à-dire, on a passé des siècles à se poser la question. Est-ce qu'il vaut mieux, créer un système où il y a une alternance de pouvoir, donc où la moitié du temps les gens sont pas contents, ou même quand, la gauche est au pouvoir et qu'on est de gauche, on n'est pas content non plus. Donc en fait, on n'est jamais content. On n'est pas content quand c'est la droite, on n'est pas content quand c'est la gauche. Mais enfin, l'alternative de ça, au mieux, c'est Pinochet. C'est-à-dire que, à l'échelle de ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est soit on est déçu, soit on est mort. C'est-à-dire que j'avais quelqu'un qui m'avait dit ça, c'était très juste, il disait « Je préfère les fins à la Tchekhov où tout le monde est déçu et où personne n'est mort, aux fins à la Shakespeare où personne n'est déçu et où tout le monde est mort. »
Oui, il y a quelque chose.
Non, juste pour rebondir sur votre question, j'ai dit beaucoup de bien du film, donc je vais juste rapporter un bémol cette fois-ci. Parce que c'est vrai que ce regard un peu désenchanté finalement sur la démocratie et sur le politique, il rencontre, en tout cas dans mon esprit, une précision à apporter pour le contredire un petit peu, qui est que ce qui existe dans la vraie vie, aussi bien dans cette équipe de cabinet que vous suivez que chez les hommes et les femmes politiques, et qui apparaît assez peu dans le film, c'est néanmoins des convictions très fortes et qui dépassent toutes ces contraintes du quotidien. C'est-à-dire que, et c'est ça qui permet de tenir et de faire de la politique et d'aller plus loin et voilà, et de pas se laisser désenchanter soi-même. C'est-à-dire que, en réalité, même si on a conscience qu'on peut pas agir sur tout, même si on a conscience que c'est compliqué, que les citoyens ne nous suivent pas forcément, ne nous comprennent pas forcément, etc., tout ce que vous dites fort bien, eh bien, il y a 1, 2, 3 sujets sur lesquels, individuellement, on a une conviction si forte qu'elle dépasse toutes ces contraintes du quotidien et qu'elle nous porte et qu'elle est exaltante. Et je pense que, par exemple, dans les équipes de cabinet que vous suivez, même si je suis d'accord qu'il sait bien de montrer le communicant qui va se battre sur son petit bout de phrase, etc., la directrice de cabinet qui passe son temps à courir et tout, sachez que derrière, pour la plupart de ces personnages dans la vraie vie, il y a quand même une conviction qui les a amenés là. Et que ça se manifeste pas sur tous les sujets, quand il sera question du devenir de la ville dans 30 ans, peut-être qu'ils seront pas complètement dedans parce que c'est pas le truc qui les porte, mais quand il s'agira de la question, je sais pas, du logement social dans leur ville ou enfin des questions un peu avec des valeurs. En revanche, là, ces convictions vont revoir le jour, être mises en scène, éclairées et les porter. Et je pense que ce supplément d'âme, on va l'appeler comme ça, c'est ce supplément d'âme peut-être qu'il manquait dans le film et qui mériterait d'être ajouté.
Pour moi, le supplément d'âme, il est dans le discours de la fin. C'est-à-dire, à un moment donné, malgré tout, à la fin, la relation entre Alice et le maire, effectivement, le film a peut-être un côté désenchanté, si vous voulez, mais à la fin, je ne finis pas le film sur une touche de cynisme ou de désenchantement, enfin, à mon sens.
Alors justement, on va Najat Vallaud-Belkacem a choisi une scène donc de ce
de ce discours. La transition est très bonne.
Voilà, ouais. De ce discours de fin. Et ben on l'écoute, hein, ce discours de fin.
Bon, on n'a pas trop de temps. On y va. Le troisième paragraphe, vous pouvez me le relire.
Alors, il ne suffit pas de dire que nous allons lutter contre le monde de la finance comme si ce monde était une armée abstraite, sans soldats, sans division. Cette armée est concrète. Et de quoi ? De qui est-elle faite ? Par exemple, ici en France. La réponse est simple, simple mais terrible. Le monde de la finance, ce sont nos enfants. Oui, les enfants de la République. Je vais même aller plus loin, ce sont nos meilleurs élèves. Ceux-là même que notre école républicaine a révélés, accompagnés, instruits, élevés jusqu'à l'excellence.
C'est quand même un peu violent, non ?
Non, je crois pas. Vous aimiez bien avant-hier.
Allez-y, continuez.
Ceux que l'on appelait encore autrefois, un peu naïvement, l'élite de la République. Ils étaient hier scientifiques, ingénieurs, professeurs, médecins, architectes, généraux. Aujourd'hui, ils se pressent, dès leur vingtaine, aux portes des plus grandes banques et des plus grandes entreprises financières. Mes amis, mes camarades, qu'avons-nous fait de nos enfants ?
C'est quand même violent.
Qu'avons-nous fait de nos enfants, des plus brillants d'entre eux, de ceux qui auraient dû mener notre pays vers le progrès social, vers une solidarité plus profonde et plus efficace ? Pour reprendre la célèbre phrase de Mario Vargas Llosa, à quel moment la France s'est-elle foutue en l'air ?
Non, pour paraphraser Mario Vargas Llosa, à quel moment la France s'est-elle foutue en l'air, c'est beaucoup moins lourd.
Alors, pour paraphraser Mario Vargas Llosa, à quel moment la France s'est-elle foutue en l'air ?
Ça déménage, hein, quand même. Continue.
À quel moment son école a-t-elle retourné la République contre elle-même ? À quel moment a-t-elle fabriqué ce nouvel individu, sans attachement national, sans sentiment de solidarité avec son prochain ? Quand a-t-elle enfanté ce citoyen du monde qui part travailler dans toutes les cities, tous les Wall Street du monde, et qui paye de moins en moins ses impôts en France ?
Vous non avez... mais moi je suis totalement fan. Pardon,
il fallait prononcer ce discours.
Mais c'est plutôt la question que je voulais poser à Nicolas, parce
allez-y.
Que honnêtement, mais vous êtes un homme politique, pour écrire un texte comme celui-là, c'est pas possible. Il y a tellement de souffle.
Oui, bah enfin, c'est gentil de dire ça. Moi, je crois que je suis capable de l'écrire dans le cadre d'un film, mais que je serais incapable ni de le prononcer, ni
de. Mais vous êtes nègre d'un homme politique, alors.
Oui, mais je suis un petit peu âgé pour ça, je pense.
C'est un discours que vous auriez aimé prononcer, ça.
Non, mais moi, je le trouve magnifique. Ouais. D'abord, oui. Honnêtement,
vous y adhérez complètement.
J'y adhère totalement. Là où j'ai trouvé ça fort, c'est que je me suis dit, mais en fait, ça fait longtemps que j'ai cette intuition que c'est exactement ça le sujet, parce que c'est vrai. Enfin, ouais. Quand on pense aux traders, à ceux qui font la financiarisation à outrance de l'économie, on met jamais de nom, de visage, de réalité dessus. Mais en fait, c'est celle-là. C'est ceux qui, voilà, ont eu la chance à la fois d'être formés par notre système scolaire, mais ensuite d'accéder, parce que les familles en avaient les moyens, etc., à de l'enseignement supérieur à l'étranger, payant, et puis ensuite, voilà, de conduire des projets et de faire des choses qui ne sont pas forcément dans l'intérêt de nos systèmes sociaux, économiques, politiques français. Donc ça, c'est quand même un petit sujet qui est rarement évoqué en politique et j'étais ravie de le voir là. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il le prononcera...
Ce qui est très fort, c'est que vous partez d'une phrase de François Hollande pour la terminer et vous arrivez à ce qu'est Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron et beaucoup d'autres. Je suis parti parce que vous parlez des familles qui ont de l'argent et qui envoient leurs enfants faire des études à l'étranger, sans doute, et ça, mais à la limite, je veux dire, dans le cadre de la lutte des classes et de bonne guerre. Moi, je parle de, par exemple, des enfants de profs, c'est-à-dire des enfants de issus de familles de classe moyenne, de gauche, mais dès qu'il s'agissait de parler d'orientation, toutes leurs convictions, disons, s'effondraient. Ils se retrouvaient à Sciences Po, et puis finalement, à faire une filière plutôt économique, et puis finalement, Londres, en fait, j'ai fait un stage à Londres et c'était vachement bien, et puis à se retrouver à bosser, dans la finance, quand bien même, leurs parents étaient profs d'histoire géo, vaguement marxistes, etc. Je veux dire, à un moment donné, j'ai l'impression que le système scolaire qui, sur le papier, je parle pour les très bons élèves, hein. Donc c'est vraiment un dossier très, enfin c'est pas la totalité de ce qui doit intéresser un ministre de l'Éducation nationale. Mais disons la question des très très bons élèves, qui est une question qu'on pose peu finalement, puisqu'on se dit c'est bon les bons élèves, il y a pas de problème. Mais le fait que les bons élèves soient orientés systématiquement dans quelque chose qui va d'un certain point de vue, à l'encontre de l'international, c'est une question qu'il faut poser, voilà.
C'est aussi un film qui fait appel à l'intelligence des spectateurs. Ça, c'est vraiment assez remarquable pour ça. C'est-à-dire qu'on se pose.
Vous dire que c'est rare.
Il y a beaucoup d'allers. Oui, il y a beaucoup d'allers. Il y a beaucoup d'allers-retours. On réfléchit beaucoup.
Oui, mais même si c'est matiné de beaucoup d'humour et de légèreté. Ouais. Enfin, je pense que c'est ça justement la réussite.
Ouais. Ça s'appelle Alice et le maire. Remarquable et remarquable aussi interprète. On va pas citer que
casting. La directrice de cabinet, Léonie Simaga. Moi, je trouve que je dois la citer parce qu'elle est formidable. Ouais.
Oui, Antoine Reinhardt, Maud Wheeler, Alexandre Steiger, Pascal Rénéric, Thomas Portet, Thomas Chabrol, incroyable Thomas Chabrol dans le rôle de Patrick Braque. Vous restez avec nous tous les deux. On se retrouve pour les sorties après She's My Sunshine. On va parler des sorties, on va commencer avec ce grand film Bacurao de Kléber Mendoza Filho qui avait réalisé Les Bruits de Récif et Aquarius et qui s'est associé à son chef d'écho Juliano Dornelles pour raconter ce film réalisé avant l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir. Donc ce futur proche du film, c'est déjà le présent. Dans un village imaginaire du Sertão, cette région très désertique, un village construit comme un décor de western et cette petite communauté spoliée qui l'habite, qui va résister à l'oppresseur jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que le village a été rayé de la carte. L'idée est folle, mais elle est réaliste, comme ont été rayées de la carte des réserves indiennes. Le film est fou aussi, mélangeant western, polar, science-fiction. Bref, un cinéma de résistance, mais avec beaucoup de cinéma à l'intérieur.
Oui, c'est vrai. Alors ça... Parfois, on peut avoir l'impression d'un petit peu d'un tract. Tiens, on parle beaucoup de politique ce matin, on va continuer à en parler. Avec des choses un peu grossières politiquement. C'est vrai que c'est moins subtil, dirons-nous, que le Aquarius. Mais je crois que ça joue dans un registre dont vous parlez, c'est-à-dire le film de genre. On enquille Mad Max, le western, le zombie, évidemment, très très présent à Cannes cette année, ouais. le gore, le fantastique, voilà. Et au fond, tout ça contribue à l'efficacité narrative et spectaculaire titre du film. Et c'est assez réjouissant, surtout effectivement quand on songe à ce qui est en train de se passer dans ce pays.
Downton Abbey, quel drôle de projet et très risqué, vu le résultat d'adapter au cinéma et sur deux heures une série qui s'est déployée en 6 saisons autour de 350 personnages. Cet immense château dans le Yorkshire en 1925 où les Crawley et leur personnel se préparent à vivre l'événement le plus important de leur vie, une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher scandale, intrigue amoureuse et manigances qui pèseront sur l'avenir même de Downton. Le film ressemble à un long épisode dont le ton est plus léger, donc moins grave que la série. Résultat, ceux qui connaissent ont connu mieux. Les autres devront faire avec tous ces personnages, esquisser, donc réduire et suivre cette visite guidée touristique qui abuse de contre-plongée sur chaque décor et chaque personnage. C'est kitsch suranné et heureusement souvent sauvé par cette immense actrice qu'est Maggie Smith et ses répliques cinglantes et pleines d'humour. Mais ça ne suffit pas. Ne croyez surtout pas que je hurle, Laurent de Franck Beauvais. Janvier 2016, l'histoire amoureuse qu'il avait amenée dans ce village est terminée depuis 6 mois. À 45 ans, il se retrouve désormais seul, sans voiture, et il regarde beaucoup de films.
Oui, écoutez, je vais être obligé de faire un petit pas de côté par rapport à mes confrères, parce que pour les uns, c'est un chef-d'œuvre, pour les autres, c'est un chef-d'œuvre. J'avoue que moi, je suis un petit peu passé à côté. 400 films vus en 4 mois, 6 mois de montage. Alors, il y a de quoi vraiment s'incliner devant le monteur. Il s'appelle Thomas Marchand. C'est vraiment un film de montage. Je suis pas sûr que ce soit un film de réalisateur, par contre, parce que effectivement, à force de multiplier les extraits qui durent 11 secondes, du coup, chacun, on ne voit rien, on ne reconnaît aucun film, alors qu'il y a des très très grands films de l'histoire du cinéma. C'est pas le propos, donc c'est pas un propos cinéphile. Le propos, il est sur le dépit amoureux, la mort du père, l'exil de Paris, la fusillade d'Orlando, on parle de Kiarostami, de la Libye, enfin, il y a un maelstrom d'images, pas de son d'ailleurs, uniquement d'images, et puis de cette voix off permanente qui est celle du réalisateur, dans laquelle moi, j'ai fini par, clairement, presque m'endormir.
Au nom de la Terre, premier film d'Edouard Bergeon qui adapte à l'écran l'histoire vraie de son père exploitant agricole, incarné par Guillaume Canet, qui en 80 et en rachetant le domaine de son père finira complètement endetté et profondément déprimé. Une histoire de famille, pour résumer les 40 dernières années et l'évolution du monde agricole. La critique d'un tel film est très délicate dans la mesure où Bergeon a mis vraiment son cœur et ses tripes dans ce film. Mais malgré cet émouvant portrait, il manque à cette histoire une vision, un regard de cinéaste, un angle. Pourquoi par exemple ne pas avoir choisi l'option du regard du fils, l'excellent Anthony Bergeon, là où le film préfère se concentrer sur Guillaume Canet, le père? À la différence, moi je repense à ce film bien sûr de Petit Paysan, lui aussi le film d'un fils d'eux, Au nom de la Terre ne parvient pas à convaincre, trop attaché à la véracité de son histoire, à l'hommage plus qu'à une dramaturgie originale.
Oui, parce que la seule fiction du film, le seul cinéma, c'est détailler le faux crâne de Guillaume Canet qui a voulu être chauve dans ce film parce que le personnage qu'il incarne est chauve, ce qui est absolument ridicule. Et donc, mais c'est le seul moment de vrai cinéma. Certains ont vu du western. Il n'y a pas du tout western dans ce film. Enfin, c'est pas parce que c'est en scope que c'est du western. On est sacré presque un malaise. Hein. C'est-à-dire que ce film d'un fils sur son père, sans le recul, sans le truc, d'une forme de fiction, vous le disiez, d'une forme d'invention cinématographique, j'avoue que j'en suis ressorti avec un assez profond malaise.
De Cendres et de Braise, c'était un documentaire de Manon Hoth et Grégory Cohen, portrait poétique et politique d'une banlieue ouvrière en mutation. Ce film nous invite donc à écouter les paroles d'habitants des cités des Mureaux près de l'usine Renault. Le film démarre avec des docs d'époque en 68, tournés pendant l'occupation de l'usine, et glisse sur des témoignages de travailleurs émigrés à la retraite, c'est la séquence la plus forte, pour se rapprocher d'autres habitants plus jeunes et tout autant défavorisés, rien ne change. Mais tous les témoignages ne se valent pas, et je trouve que la forme du film, de noir et blanc, beaucoup d'artifices et ce free jazz à gogo, finissent par franchement noyer le propos.
Le noir et blanc fonctionne à merveille dans la première partie, ouais, c'est-à-dire ouais. la cohabitation en quelque sorte des images d'archives de Renaud Flin avec ses ouvriers maghrébins qui venus de la Sarthe que les Parisiens appelaient de façon méprisante les betteraviers. Hein, ça c'est voilà, il y a des mentions comme ça qui sont formidables avec effectivement la grande conjonction du noir et blanc de maintenant et du noir et blanc d'hier. Et puis, mais vous le disiez, le film perd intensément de sa force en quelque sorte. sorte, avec une sorte de portrait différent, pas très très intéressant.
Les petits maîtres du Grand Hôtel, ça c'est drôle, c'est un documentaire musical sur une école hôtelière, Laurent.
Oui, c'est l'une des bonnes surprises de la semaine.
C'est de Jacques
moi,
Deschamps.
En tous les cas, voilà, Jacques Deschamps qui a écrit effectivement le scénario, mais c'est un documentaire qui montre une école hôtelière de Grenoble avec ses élèves qui essayent d'apprendre les difficiles métiers de femme de chambre, de réceptionniste, de serveur, de cuisinier. Hein. Franchement, c'est pas du tout la réalité qu'en montre Top Chef et les chroniques télévisuelles habituelles. C'est évidemment beaucoup plus dur. Et il introduit de la distance, de l'ironie en faisant chanter maladroitement, mais peu importe, avec différents types de chansons. Non pas ses acteurs, mais les personnages de son documentaire. On pense d'ailleurs à un autre documentaire enchanté qui s'appelait Chante ton bac d'abord, sur des jeunes comme ça.
Oui,
c'est très malin, c'est très joli, c'est très frais, et ça dit plein de choses aussi sur le travail. Tiens, comme par hasard, décidément, le cinéma français s'intéresse, et c'est bien, à la politique et au travail.
Une reprise à Maison de la Mort, James Whale.
Bah oui, grand film, tout simplement parce que James Whale, on l'a peut-être oublié, mais c'est le réalisateur de Frankenstein. Et là, il reprend son Boris Karloff en y ajoutant Charlton dans une nuit de frissons dans une maison de campagne en comparaison de laquelle celle de Psychose est une aimable demeure familiale.
Comme Najat Vallaud-Belkacem a un train à prendre, on va tout de suite commencer et terminer avec elle, avec ce cadeau que vous lui offrez.
Deux films d'Alain Cavalier, le très grand cinéaste français, ouais. Le plein de super et Un étrange voyage, deux errances, deux très très belles balades cinématographiques magnifiques. Je ne sais pas si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, je vous envie de les découvrir. Et c'est chez Gaumont. Voilà, et on est très heureux de vous les offrir.
On vous laisse quitter le studio, hein, parce que je sais que vous avez...
Merci
beaucoup d'avoir commenté ce film Alice et le maire, et très brillamment. Et Laurent.
Et pour vous, Nicolas Parizère, eh bien, un film politique, Un Condé, 1970, Yves Boisset, un film sur un flic qui devient un ripoux. Un an avant Max et les Ferrailleurs, ben, Bouquet incarne un peu ce que fera aussi Piccoli, c'est-à-dire cette espèce de flic qui devient à la fois tueur et stalinien. Voilà.
Voilà.
C'est chez ESC, Un Condé, Yves Boisset.
On va parler de deux festivals, Laurent, très vite.
Oui, deux festivals. Le premier, c'est sur l'Amérique latine, et c'est l'Amérique latine, sur le cinéma d'Amérique latine, du 30 septembre au 6 octobre. Et puis, à Châlons, en Champagne, vous irez faire la guerre, tout simplement, aux côtés notamment de Bertrand Tavernier, pour un festival de cinéma des films de guerre. Voilà.
Mais c'est bien, alors, on a encore un petit peu de temps, parce qu'on s'est tout à fait pressé avec Najat Vallaud-Belkacem, qui... Ça vous a plu, ces commentaires, Nicolas Parizère?
Oui, beaucoup. Non, j'étais heureux.
Non, mais ça vous importe, les réactions des politiques, justement?
Ce qui m'importe, c'est la réaction des spectateurs.
Oui,
après, en général, la réaction des hommes politiques et des femmes politiques, elle est assez bonne, mais je pense que les gens sont contents quand on parle d'eux au cinéma. Par exemple, mon père, qui, avant de prendre sa retraite, était dentiste, aimait beaucoup la boum, parce que Claude Brasseur était dentiste. Après, alors que je pense que les histoires d'amour de Sophie Marceau, ça devait lui être égal. Mais il avait toujours beaucoup de plaisir à regarder comment Claude Brasseur était professionnel dans ses gestes.
On terminera avec ça. Alice et le maire, grand film qui sort mercredi prochain. Merci beaucoup, Nicolas Parizère. On vous laisse les clés du générique. Et Najat Vallaud-Belkacem nous a laissé sa voix aussi.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Nicolas Parizère, j'y étais.
Et moi, Najat Vallaud-Belkacem, j'y étais.